Chapitre 8. De l'assombrissement du Valinor. Lorsque Manwë eut vendu chemin que Melkor avait pris, il lui apparut clairement que celui-ci entendait regagner ses anciennes places fortes dans le nord de la Terre du Milieu. Et Oromë et Toolkas se hâtèrent de ce côté afin de le rattraper s'ils le pouvaient. Mais ils ne découvrirent aucune trace, ni aucune rumeur de lui, au-delà des rivages des Teleri, dans les déserts inhabités aux confins de la glace. Dès lors, on redoubla de vigilance le long des barrières septentrionales d'Aman, mais en pure perte, car avant même que la poursuite fût lancée, Melkor avait rebroussé chemin, et en secret, s'était faufilé loin au sud. Car c'était toujours un Vala, et comme tel, il pouvait changer de forme ou aller sans vêtements, au même titre que ses semblables. Encore qu'il dût bientôt perdre à jamais ce pouvoir. Ainsi donc, sans être vu, il parvint enfin dans la ténébreuse région d'Avathar. Cet étroit pays se trouvait au sud de la baie d'Eldamar, sous les contreforts orientaux des Pelori. Et ses longs rivages désolés s'étendaient fort avant dans le sud, obscurs et inexplorés. Là, entre les murs abrupts des montagnes et les eaux froides et noires, les ombres étaient plus profondes et plus épaisses qu'en tout autre endroit au monde. Et là, en Avathar, Ungoliant avait élu domicile, secrètement et à l'insu de tous. Les Eldar ne savaient d'où elle était venue, mais d'aucuns ont affirmé qu'en des âges lointains, elle descendit de l'obscurité qui entoure Arda lorsque Melkor posa ses yeux jaloux sur le royaume de Manwë pour la première fois, et qu'au commencement, elle était de ses esprits tombés sous sa servitude. Mais elle avait désavoué son maître, désirant être maîtresse de sa singulière convoitise et réduire toute chose à elle-même pour alimenter son propre néant. Et elle avait fui dans le sud, échappant aux assauts des Valar et aux chasseurs d'Oromë, car leur vigilance s'était toujours portée au nord, et le sud resta longtemps négligé. De là, elle avait rampé vers la lumière du royaume béni, car elle avait soif de lumière et la haïssait. Elle vivait dans un ravin, et sa forme était celle d'une monstrueuse araignée tissant ses toiles noires dans une faille des montagnes. Là, elle aspirait toute la lumière qu'elle pouvait trouver pour la restituer en de noirs filets sombres suffocantes, jusqu'à ce qu'aucune lumière ne pût désormais atteindre son domicile. Et elle mourait de faim. Or, Melkor vint en Avathar et alla la trouver. Et il revêtit de nouveau la forme qu'il avait prise en tant que tyran d'Outumno, celle d'un sombre seigneur, grand et terrible. Et dès lors, il demeura à jamais sous cette forme. Là, dans les ombres noires, hors de la vue même de Manwë en ses halles au sommet du monde, Melkor, avec Ungoliant, ourdit sa vengeance. Mais lorsque Ungoliant comprit l'ambition de Melkor, elle fut déchirée entre la convoitise et l'épouvante, car elle n'osait défier les périls d'Aman et la puissance des redoutables seigneurs, et elle ne voulait pas sortir de sa cachette. Aussi Melkor lui dit « Fais comme je te l'ordonne, et si ta faim n'est point rassasiée quand ce sera chose faite, alors je te donnerai tout ce que tu pourras convoiter. Oui, certes, des deux mains. » Il fit légèrement cette promesse, comme toujours, et il rit en son cœur. Ainsi le grand larron dressa-t-il son appât pour le petit. Quand Melkor et Ungoliant se mirent en route, elle tissa autour d'eux un manteau de ténèbres, une non-lumière, dans laquelle les choses semblaient n'avoir plus corps, et que l'œil ne pouvait pénétrer car elle était néant. Puis, lentement, elle ourdit ses toiles, cordon après cordon, d'une fissure à l'autre, de saillies rocheuses en pics montagneux, toujours plus haut, tantôt se traînant, tantôt s'accrochant, jusqu'à ce qu'enfin elle fût tout au sommet du Yarmentir, la plus haute cime de cette région du monde, loin au sud du Taniquetil. Les Valar n'y faisaient pas vigie, car à l'ouest des Pelori gisait un pays vide et baigné de crépuscule, tandis qu'à l'est ne se voyait, sauf pour l'Avathar oublié de tous, que les eaux sombres de la mer infranchissable. Or, à présent, la sombre Ungoliant était juchée au sommet de cette montagne, et elle fit une échelle de cordes tressées et la jeta dans l'abîme. Et Melkor y grimpa et rejoignit ce haut lieu, et il se tint à ses côtés, embrassant du regard tout le royaume gardé. Au-dessous d'eux s'étendaient les bois d'Olomé, tandis qu'à l'ouest, les champs et les pâturages de Yavanna chatoyaient comme de l'or sous les hauts blés des dieux. Mais Melkor regarda au nord, et il vit au loin la plaine éclatante et le flamboiement des dômes argentés de Valmar au mélange des lumières de Telperion et de Laureline. L'or Melkor rit tout haut et dévala à grands bonds les longues pentes occidentales, et Ungoliant était à son côté, et son obscurité les enveloppait. Or, le Valinor était en période de fête, ce que Melkor n'était pas sans savoir. Si toute saison était au gré des Valar, et bien que le Valinor ne connût pas la morte saison d'hiver, on n'en vivait pas moins dans le royaume d'Arda, qui n'était qu'un petit domaine au sein des Haldea, dont la vie est le temps qui coule, sans cesse, de la première note jusqu'au dernier accord d'Eru. Et ainsi qu'il plaisait aux Valar, comme il est raconté dans l'Ainulindale, de se parer, comme d'un vêtement, des formes des enfants d'Iluvatar, de même s'adonnait-il au manger et au boire, et recueillait-il les fruits de Yavanna du sein de la terre qu'ils avaient créés sous Eru. Yavanna avait donc arrêté des périodes de floraison et de mûrissement pour tout ce qui poussait en Valinor. Et à chaque première récolte de fruits, Manwë proclamait une grande fête à la louange d'Eru, où tous les peuples du Valinor épanchaient leur joie en musique et en chant sur le Taniquetil. Ce moment était donc venu. Et Manwë décréta la fête la plus somptueuse jamais vue depuis l'arrivée des Eldar en Aman. Car si l'évasion de Melkor laissait présager bien des peines et des labeurs, et nul ne savait quelles autres blessures Arda devrait subir avant qu'il fût de nouveau maîtrisé, pour l'heure Manwë entendait remédier au mal qui s'était insinué parmi les Noldor. Et tous furent convoqués en ces halles sur le Taniquetil, afin que soient enterrés les griefs entre leurs princes, et définitivement oubliés les mensonges de leur ennemi. Y vinrent les Vanyar, de même que les Noldor de Tirion, et les Maiar y étaient assemblés, et les Valar apprêtés en beauté et en majesté. Et ils chantaient devant Manwë et Varda en leur haute halle, ou dansaient sur les pentes verdoyantes de la montagne qui regardait à l'ouest, vers les arbres. Ce jour-là, les rues de Valmar étaient désertes, les escaliers de Tirion silencieux, et tout le pays sommeillait tranquillement. Seuls les Teleri, au-delà des montagnes, continuaient de chanter sur les rivages de la mer, car ils n'avaient cure des saisons et des époques, et les soucis des maîtres d'Arda leur étaient indifférents, de même que l'ombre tombait sur le Valinor, car elle ne les avait pas touchés, pas encore. Une chose seulement troubla les desseins de Manwë. Fëanor ne manqua pas de venir, car lui seul en avait reçu l'ordre de Manwë. Mais Finwë ne vint pas, ni aucun autre des Noldor de Formenos. « Car, dit Finwë, tant que dure le bannissement de Fëanor, mon fils, par lequel il ne peut se rendre à Tirion, je me considère détrôné, et point n'irai à la rencontre de mon peuple. » Et Fëanor ne vint pas en tenue de festivité, et il ne revêtit aucun ornement ni argent, ni or, ni pierre précieuse. Et il refusa la vue des Silmaril aux Valar et aux Eldar, qu'il laissa enfermer dans leur chambre de fer à Formenos. Néanmoins, il rencontra Fingolfin devant le trône de Manwë, et ils se réconcilièrent, du moins en parole. Et Fingolfin oublia l'incident de l'épée dégainée. Car celui-ci leva la main, disant « Chose promise, chose due, je te libère, et aucun grief ne retient. » Sur quoi Fëanor lui prit la main en silence. Mais Fingolfin dit « Demi-frère de sang, je serai en plein un frère de cœur. Tu iras en tête et je te suivrai. Qu'aucun malheur ne nous sépare plus. » « Je t'entends bien, » dit Fëanor, « qu'il en soit ainsi. » Mais il ne se doutait pas du sens que prendraient leurs paroles. On raconte qu'au moment où Fëanor et Fingolfin se tenaient devant Manwë, advint le mélange des lumières, moment où les deux arbres luisaient ensemble. Et les rues silencieuses de Valmar étaient baignées d'argent et d'or. Et en cet instant même, Melkor et Ungoliant se hâtaient à travers les champs du Valinor, comme l'ombre d'un nuage noir filant par grand vent sur la terre ensoleillée. Et bientôt, il se tare devant le tertre vert des Eloar. La non-lumière d'Ungoliant s'éleva alors jusqu'aux racines des arbres mêmes, et Melkor s'élança sur le tertre, et de sa lance noire, il frappa chaque arbre jusqu'au cœur, les blessa profondément, et leur sève se déversa, comme si c'était leur sang, et se répandit sur le sol. Mais Ungoliant l'aspira, et allant alors d'arbre en arbre, elle appliqua son bec noir contre leurs blessures, jusqu'à ce qu'elles se tarissent. Et le poison de mort qui était en elles pénétra leurs tissus et les dessécha, racines, branches et feuilles. Et ils moururent. Et sans avoir étanché sa soif, elle alla au puits de Varda et les assécha. Mais Ungoliant vomissait des vapeurs noires cependant qu'elle buvait, et elle enfla et prit une forme si grande et si hideuse que Melkor prit peur. Ainsi les grandes ténèbres descendirent sur le Valinor. Des crimes perpétrés ce jour-là, il est longuement question dans l'Aldoudénier, composé par Elémiré des Vanyar et connu de tous les Eldar. Pourtant, aucun chant ni aucun conte ne peut contenir toute la peine et la terreur qui en découlèrent. La lumière fit défaut, mais les ténèbres qui lui succédèrent ne représentaient pas qu'une perte de lumière. Ce jour-là, furent enfantées des ténèbres qui ne semblaient point un manque, mais une chose, dotée d'une existence propre. Car un dessein maléfique l'avait tirée de la lumière, et elle pouvait pénétrer l'œil et s'insinuer dans le cœur et l'esprit, et suffoquer la volonté même. Varda regarda du haut du Taniquetil, et elle contempla l'ombre qui s'élevait en de soudaines tours ténébreuses. Valmar avait sombré dans un vaste océan de nuit. Bientôt, la montagne sacrée se dressa seule, dernier îlot d'un monde noyé. Tout chant cessa. Un silence tomba sur le Valinor, et il n'y eut plus le moindre son, sinon de très loin, sur le vent qui s'engouffrait par le col des montagnes, la plainte des Teleri, telle la froide clameur des mouettes. Car un souffle glacial se leva dans l'est en cette heure, et les vastes ombres de la mer déferlèrent contre les murailles du rivage. Mais Manwë, sur son haut siège, regarda au dehors, et seuls ses yeux transpercèrent la nuit, jusqu'à distinguer des ténèbres plus noires que le noir, impénétrables, immenses mais lointaines, qui fuyaient désormais vers le nord à grande vitesse. Et il sut que Melkor était venu, puis reparti. Lors la poursuite fut donnée, et la terre trembla sous les chevaux de la troupe d'Oromé, et l'étincelle qui jaillit sous les sabots de Nahar fut la première lumière à ressurgir en Valinor. Mais elle n'eut pas sitôt rejoint le nuage d'Ungoliant, que la cavalerie des Valar fut aveuglée et jetée dans le désarroi, et tous furent déroutés à n'en plus savoir où ils allaient. Et la sonnerie du Valaroma hésita et fit défaut. Et Toulkas se trouva pris comme dans un noir filet à la nuit tombée, et il se tint là impuissant et frappa l'air en vain. Mais quand les ténèbres eurent passé, il était trop tard. Melkor avait fui où bon lui semblait, et sa vengeance était accomplie.